Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric Delvaux, bonjour à tous.
Cette saison, c'est d'actualité. Créer un jardin est aussi une jolie manière de rendre hommage aux millions de morts de la Grande Guerre.
C'est ce que fait la région des Hauts-de-France en inaugurant ce mois-ci 12 jardins, 12 lieux de mémoire propices aux souvenirs et à la réflexion sur le monde qui nous entoure. Ce tout nouveau circuit des jardins de la paix n'est pas achevé car il est prévu d'en construire 4 supplémentaires. Ils sont d'ailleurs et déjà en cours de conception.
Et parmi ces jardins de la paix en Hauts-de-France, La première visite que vous proposez, ça se passe à Le Quesnoy.
Oui, Le Quesnoy, une commune du département du Nord. C'est une paysagiste néo-zélandaise qui a investi les douves des fortifications Vauban pour y commémorer la mémoire des soldats de son pays tombés lors de l'assaut de la forteresse. Xant White, c'est son nom, a voulu un jardin qui se visite à l'aube ou à la tombée de la nuit pour ressentir le Ranjimari de la culture maori, à savoir la paix. Autre lieu à Vimy dans le Pas-de-Calais, ce sont des jardiniers canadiens qui se sont inspirés des étendues blanches de leur pays pour concevoir un jardin qui rappelle si besoin en était, et comme avec un drapeau blanc, la nécessité d'un dialogue paisible entre les nations.
Jardin de la paix à Arras également. Là-bas, les paysagistes sont écossais.
Ils ont voulu un jardin qui rende hommage aux 2500 joueurs de cornemuse qui accompagnaient les troupes, tandis qu'à Thiepval, ce sont des paysagistes anglais et gallois qui ne veulent pas oublier les 442 000 combattants morts lors de la bataille de la Somme. Ils ont réalisé un long banc en bois, gravé des initiales des malheureux tués sur le champ de bataille, un banc supposé réunir le passé, le présent et l'avenir.
Et il existe aussi un jardin de la paix à Notre-Dame-de-Lorette.
Lieu tristement célèbre avec sa nécropole où reposent 4057 soldats. Il est aussi possible de contempler un jardin dans les douves du château de Péronne dans la Somme, où deux paysagistes irlandais ont créé le jardin d'Eutychia, la déesse grecque du bonheur. Il est doté de 4 tables de pique-nique et il suffira de grimper dessus pour atteindre les branches des arbres plantés et y cuire des fruits qui appartiendront seulement à ceux qui ont envie de les manger. Ils ont aussi recouvert d'argile certaines dépressions du sol pour former des larmes de pluie dans le paysage en souvenir des 592 Italiens morts au combat.
Un mot encore, Alain, sur ce paysagiste allemand qui a imaginé un jardin de la paix pour le moins original.
Il s'appelle Thilo Folkerts et il souhaite inverser le processus de destruction lié à la violence de la guerre. Il invite les habitants à planter des centaines de bulbes de couleur sur le chemin des dames. C'est une bien belle idée.
Guerre et paix, mais ça c'est un autre livre. Alain Baraton, vos bons conseils aux auditeurs de France Inter. Pauline, par exemple, dit qu'elle a besoin pour son jardin en région parisienne d'un arbre qui pousse vite. Mais lequel ?
À mes yeux, celui qui pousse vraiment le plus rapidement est le Polovnia tomentosa. Le Polovnia ressemble au catalpa. C'est un arbre à grosses feuilles qui fleurit mauve au printemps, de grandes grappes dressées mauves, assez jolies. C'est un arbre dont l'espérance de vie n'est pas énorme, mais il est magnifique. Il supporte les atmosphères polluées. Il apprécie également d'être taillé. Donc c'est vraiment, à mes yeux, un végétal qui pousse assez rapidement. Évitez surtout la serre griseum qui pousse que de quelques... Oui, c'est l'érable à papier.
Ah,
parce que je vois votre expression interrogative.
Oui.
C'est l'érable à papier. Il pousse à 10 cm par an et encore quand il est en grande forme. Mais pourquoi pas non plus planter des arbustes? On pense toujours à des arbres. Vous avez des petits arbres, vous avez aussi des grands arbustes. Moi, j'aurais tendance à planter les arbustes qui ont l'avantage d'être beaucoup plus facilement, j'allais dire, réductibles. On peut davantage les tailler et davantage jouer sur le volume.
Philippe vous demande comment éviter que mes pots en terre se dégradent sous l'action du gel.
En les isolant de la terre, tout simplement, par des petites cales en bois, tout simplement. Et il est vrai que souvent, ces poteries, souvent qui viennent du sud de la France et qui coûtent horriblement cher, ne résistent pas au froid. Attention également, on a tous tendance à commettre la même erreur. Vous avez une poterie merveilleuse, style poterie d'Anduze. Alors vous avez cette poterie sur votre terrasse et vous mettez à l'intérieur un autre pot qui va contenir la plante. On oublie souvent qu'en arrosant la poterie intérieure, on met de l'eau entre la poterie dont je viens de vous parler et celle qui est à l'intérieur, le gel.
Et ça éclate.
Et vous avez tout compris. Donc pas de cache-pot à l'intérieur et on isole du sol par une petite cale en bois.
Alors on a souvent parlé ici de savoir comment tailler à l'automne. Valérie nous dit, elle n'a toujours pas compris, faut-il ou non tailler les rosiers à l'automne?
Alors chaque fois que je parle de la taille des rosiers, je me fais complètement allumer par la presse horticole. Je réitère donc mes propos. La taille des rosiers telle qu'on nous l'enseigne ne sert à rien. Tailler les rosiers au printemps, lorsque les grosses gelées ne sont plus à craindre, à 2 ou 3 yeux, le dernier étant dirigé vers l'extérieur en taillant le rameau de façon biseautée, etc. Tout ça est complètement pipeau et dépassé. Les conseils de taille de rosier que je prodigue sont ceux que m'a donné lui-même, Monsieur David Austin, grand maître du rosier anglais. Il vous suffit simplement, maintenant ou au début du printemps, de prendre votre taille et même à moteur, même électrique, et vous réduisez le rosier buisson des deux tiers. Vous vous fichez complètement de la situation des yeux, faites l'expérience, et en faisant ainsi, un, vous économisez de l'énergie, deux, vous gagnez du temps, troisièmement, vous verrez l'an prochain que vos rosiers fleuriront plus tôt, plus tard, et de façon beaucoup plus agréable.
Est-il vrai, Alain Baraton, que les vieux rosiers, finalement, sont plus beaux que les jeunes? Je dis ça parce que ça a à voir avec la pièce de Yasmina Reza que nous avons le bonheur de recevoir ce matin.
Les vieux rosiers ont l'avantage d'avoir en eux des souvenirs extraordinaires. Le vieux rosier n'est pas seulement un végétal capable de produire des fleurs, mais il a été planté par une personne que parfois on regrette, que l'on pleure et que l'on a aimé.
Et les fleurs sont plus grosses, plus
charnues.
Oui,
parce que généralement, le vieux rosier a eu le temps de s'adapter à son terrain. Le vieux rosier a compris, lui, contrairement aux jeunes, qu'il a besoin de la nature pour se multiplier. Et généralement, les vieux rosiers font ce que les jeunes ne font pas. Eux, ils se parfument.
Non, les vieux rosiers sentent meilleur.
Oui, il n'y a pas que les vieux rosiers, cher Patrice et Martin. Je connais certains jardiniers qui, assez âgés, sont pas mal non plus.
Alain, au lieu de dire des bêtises, un conseil lecture
mais ce ne sont pas des bêtises.
Pour le week-end.
Petit pays de France, paysage, origine, tradition, c'est de Didier Cornaille, c'est publié chez Omnibus. C'est tout simplement une vision de la France et
belle vision de la France.
Oui, une très jolie, belle.
Et c'est un type formidable, Didier Cornaille, c'est un Morvandio.
Tout à
pur
fait.
Et dur, il est formidable.
Et qui parle de la France avec beaucoup de tendresse.
Merci Alain Baraton et à demain pour votre main verte, toujours dans la matinale.